Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Petit événement dans mon quartier, l'installation d'une boîte à livres. Je suis allée y farfouiller à la recherche d'un livre que je pourrais vous faire partager. Et je me suis dit, c'est quand même bien une boîte à livres. On prend, on pose, on reprend, on repose. Pas besoin de mots de passe ou de téléchargement. Mais à part peut-être un recueil de nouvelles de 1950 avec un titre contenant le mot « tulipe » dedans, ah, je ne me souviens plus très bien, je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur entre les livres de jardinage, les livres sur le foot, le cyclisme, les Saint-Antonio et les fascicules de psychologie sociale. Bon, il y avait quand même un livre sur le Dr House, mais bref, je suis retournée dans ma bibliothèque. Le livre de Yves Pacalet dépassait légèrement de l'étagère. Ce sera donc celui-là, me suis-je dit, au titre on ne peut plus direct. L'humanité disparaîtra. Bon débarras. Prix du pamphlet 2006. Yves Pacalet, écrivain, philosophe, naturaliste, collaborateur du commandant Cousteau dès 1972. Eh bien, l'humanité disparaîtra, bon débat, c'est pas drôle. Mais c'est salutaire, voire revigorant. Prenez une grande respiration, allons-y, attention, ça va tanguer. J'ai cru en l'homme. Je n'y crois plus. J'ai eu foi dans l'humanité, c'est fini. J'ai pensé, dit et écrit que mon espèce avait un avenir. J'ai tenté de m'en persuader. Je suis maintenant sûre du contraire. L'humanité n'a nul destin, ni lendemain qui chante, ni surlendemain qui fredonne. Nos futurs. Elle est comme une droguée, avide et déjantée, esclave des biens matériels, en souffrance de consommation, asservie à ce qu'elle imagine être la croissance, ou le progrès, et qui sera sa perte, si elle ne s'autodétruit pas dans une guerre atomique. Une épave. L'humanité est en train de couler. Elle a de l'eau par-dessus la ligne de flottaison. Elle est trop lourde, elle se démembre, sa quille éclate. Oh, que j'aille à la mer, tel le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Elle ne veut rien voir ni rien savoir du désastre qui se prépare. L'équipage et les passagers ne se préoccupent que de charger encore l'embarcation, parce qu'ils imaginent que le bonheur est dans le toujours plus. J'ai milité pour la survie de ma lignée animale, mais le genre homo refuse de regarder en face les calamités qu'il se prépare ou que déjà il s'inflige. Il ne supporte même pas qu'on les évoque. Je n'entends partout que ces mots « Oh, parlez-nous d'autre chose, soyez positifs, divertissez-nous. » Oh Pascal, le divertissement. Je continue le combat pour la planète et pour l'homme, sans la moindre perspective de succès, par habitude, par devoir. Mais sans autre espérance que d'en rire ou d'en pleurer, tel le musicien du Titanic en train de jouer plus près de toi, mon Dieu, de l'eau jusqu'aux genoux. Je suis un déçu de l'humanité, comme d'autres le sont du socialisme ou du capitalisme. Depuis belle lurette, je sais que le navire de notre espèce ira par le fond. L'arche de Noé ne touchera pas d'autre mont Ararat. On peut exprimer cette idée de diverses façons. La dernière goutte fera déborder le vase. Le bolide percutera le mur. Nous fonçons vers le précipice en nous réjouissant de notre vitesse prodigieuse que nous nommons croissance. Chaque métaphore est éculée, mais pertinente. Comme tous les pessimistes, j'ai appris à singer l'optimisme. Pendant plus de 30 ans, j'ai parlé ou écrit positif. Je n'ai jamais nourri de réelles illusions, mais j'ai fait semblant. En quelques occasions, il m'est même arrivé de parier sur la vertu des miens. Par exemple, en 1972, lors de la conférence de Stockholm, qui a lancé le programme des Nations Unies pour l'environnement, et que j'ai rêvé fondatrice d'une nouvelle harmonie de l'homme et du monde. J'ai clamé alors ma confiance en mon espèce, et j'ai commis un petit cortège de livres, articles, entretiens, émissions de radio et de télévision dans lesquels j'ai loué notre sagesse, ou comme disait Descartes, notre bon sens, la chose au monde la mieux partagée. Je n'étais pas convaincue de ce bon sens. Je me sentais plus proche de l'éloge de la folie d'Erasme. J'ai simulé, ainsi qu'un partenaire sexuel frustré, mais gentil. Pendant 30 ans, j'ai fait mine. J'ai vu les résolutions de la conférence de Stockholm s'engloutir dans les pollutions, les saccages et les profits boursiers qui s'ensuivent. J'ai regardé le programme des Nations Unies pour l'environnement se consumer dans les dévastations civiles et guerrières. Le même sort est advenu à l'appel de Rio de Janeiro de 92, une ville de carnaval et de favelas où j'avais pourtant vu le commandant Cousteau se faire acclamer devant un parterre de chefs d'État, sacré Captain Planet, ou conscience écologique d'une humanité enfin soucieuse de la maison Terre. Faribole à usage médiatique. Le protocole de Kyoto, élaboré en 97, s'asphyxie dans l'égoïsme forcené des riches, tout comme la planète étouffe dans les excès de gaz carbonique, d'ammoniac et de méthane. Le principe en est dramatiquement modeste. On voudrait qu'en 2010, on n'injecte pas dans l'atmosphère plus de gaz à effet de serre, et même un peu moins, qu'on en envoyait en 90. Une ambition minimale au regard de la santé de la planète. Les États-Unis, un quart des émissions totales, ne veulent rien signer au nom de leur sacro-saint niveau de vie, qui n'est pas négociable. La Chine dit oui du bout des lèvres et regarde ailleurs. L'Inde accepte et botte en touche. La plupart des pays qui ratifient le texte traînent des pieds, prennent du retard dans son application et organisent leur industrie, leur agriculture, leur transport et leurs habitations de façon que jamais rien n'aboutisse. J'ai essayé de me cramponner à mes espérances écologiques, telle la moule à son rocher pendant une tempête de force 10. Je voyais bien que les biotopes étaient de plus en plus pollués, les mers pillées, les forêts dévastées, les marais asséchés, les montagnes bétonnées, la biodiversité ruinée, l'esprit de la terre bafoué, souillé, violé, assassiné. Je continuais de sourire pour ne pas avoir à en pleurer. Pendant 30 ans, j'ai entretenu des illusions pour les autres comme pour moi-même. J'ai tenté de dénicher des raisons de garder confiance en l'homme, de continuer à croire en son futur. J'en ai même rajouté dans le registre BA. J'ai proclamé que tout est possible, y compris le meilleur. L'espèce humaine, ai-je argumenté, est sensible, sociable, solidaire et généreuse. Elle a un gros cerveau et un cœur. Elle est intelligente et créatrice. Sa science et sa morale la sauveront. La gravité de la situation apparaît à tout le monde. Par conséquent, les remèdes seront administrés. La prise de conscience écologique s'effectue. Le consommateur change. Les décideurs, le politicien, l'industriel, vous et moi, ne peuvent qu'en tenir compte. Au pire, l'éducation permettra aux jeunes générations de finir le travail que les anciennes ont négligé. Voilà 30 ans que je m'efforce de croire à ce discours ou à cette utopie et d'en persuader les autres. Mais le temps a dissous mes ultimes espérances. Pour résumer, je suis excédée. J'en ai assez de jouer les Don Quichotte en bataille contre les raffineries de pétrole et les centrales nucléaires. Je suis écœurée des paroles généreuses qui s'envolent et des textes lucides qu'aucun acte ne conclut. Je suis fatiguée des bonnes décisions qui s'enlisent dans les sables mouvants des passe-droits, des coups de bourse et des profits illicites. J'en ai par-dessus la tête des projets subtils que l'avidité de quelques-uns tue dans l'œuf ou étouffe à la naissance. J'en ai marre de la perpétuelle dictature des intérêts individuels, familiaux, corporatistes, religieux, communautaires ou nationaux, du je m'en foutisme et de l'hypocrisie, de la bassesse ordinaire, de l'égoïsme général. Je me range évidemment sous l'adjectif général. J'en ai ma claque, des promesses, la main sur la poitrine, dont on sait qu'elles n'engagent que les imbéciles qui les croient. Je suis épuisée de me mentir à moi-même et de mentir aux autres, y compris à mes proches. Il est temps que je couche noir sur blanc ma véritable opinion sur mon espèce et mon pronostic sur son futur. Je ne suis pas certain de prendre plaisir à le faire, mais je suis convaincu qu'il s'agit d'un devoir. Chacun se remémore ce sujet de dissertation classique au lycée, la phrase des caractères, où La Bruyère écrit que Corneille peint les hommes comme ils devraient être, tandis que Racine les peint comme ils sont. Voilà précisément le problème. Jusqu'à ce jour, en écologie, comme au chapitre de la guerre et du crime, de la morale et des droits de l'homme, presque tout le monde, au talent littéraire près, a fait du Corneille. Moi le premier. Je désire, dans ce modeste essai, me mettre enfin à Racine. Je veux présenter l'homo sapiens tel qu'il est, sans complaisance ni langue de bois, ni flou ni phare, en oubliant le politiquement correct. Je veux déshabiller le roi, mettre à nu ce primate insignifiant et vaniteux qui se prend pour le prince de l'univers. J'ai peur que, dépouillée de ses oripeaux, la bête ne soit pas belle à voir. Je crains surtout de devoir la ranger parmi les espèces en voie de disparition.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Qu'est-ce que l'homme ? Selon la formule dévastatrice de Platon, c'est un animal à deux pieds sans plumes, un poulet peu poilu. J'ajoute, un ravageur imprévoyant, un destructeur invétéré, un saccageur qui n'a d'autre préoccupation que son intérêt immédiat, une espèce violente envers les autres comme envers elle-même, un danger pour tout ce qui respire. L'homme est un barbare à deux pieds sans plumes. Paul Gauguin demandait dans un fameux tableau « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?» Ces questions sont à la fois biologiques, écologiques, historiques, sociologiques, économiques, éthologiques, philosophiques, voire métaphysiques, mais d'abord vaniteuses et drôlatiques. Aux yeux du philosophe qui n'a jamais entretenu d'illusions ou du moraliste qui a perdu toutes les siennes, l'homme est un poulet à deux pieds sans plumes qui descend des bactéries et qui y retourne après avoir saccagé le poulailler. Sauf miracle. Mais je le rappelle, un miracle est un événement que tout le monde attend pour conjurer la catastrophe et qui n'arrive jamais. Qu'est-ce que l'homme ? Pour Alexandre Vialat, un animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27 au coin de la rue de la Glacière. Pour Philippe Val de Charlie Hebdo, un animal qui aime le foot. Pour Aristote, il s'agit d'un être politique et qui parle. Les scolastiques y voient un animal doué de raison. Pour Rabelais, son propre est le rire. Pour Descartes, c'est la pensée, le cogito. Pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Pour Kant, il incarne celui qui juge. Pour Marx, celui qui travaille. Pour Bergson, celui qui crée. Pour Freud, il est affublé d'un inconscient et de divers complexes ridicules. Pour le sociologue, il est grégaire comme le termite et le rat. Pour les religions monothéistes, c'est la seule créature à laquelle Dieu ait offert une âme immortelle. L'humanité m'amuse quand elle ne me met pas en rage. L'homme est drôle à en pleurer, comique à en imbiber des piles de mouchoirs. C'est le roi de l'acte manqué, le prince de la gaffe, l'empereur du gag involontaire. Il croit avoir un esprit ou une âme immatérielle et ne devoir de compte qu'à sa conscience, à la justice ou au ciel. En vérité, il incarne un presque rien à la surface d'une boule de matière minuscule, dans l'infini d'un univers qui n'a aucun besoin de lui et qu'il ne comprendra jamais, même si la relativité générale et la mécanique quantique sont plus proches du réel que les concepts bizarres des philosophes, les idées pures de Platon, les monades de Leibniz, la dialectique de Hegel ou l'être-là de Heidegger. L'homme est un organisme vivant. Comme tous ses homologues, il se reproduit, et même activement, c'est l'un de ses traits distinctifs, et il consomme. Il a besoin de respirer, de manger, de se chauffer, de s'abriter et de loger sa nichée, sa famille. Ce faisant, parce qu'il engloutit beaucoup plus d'énergie et de biens matériels que les espèces sauvages, et parce qu'il prolifère, il détruit à grande vitesse la seule maison, le seul vaisseau spatial dont il dispose, la Terre. Il baptise progrès, se saccage. Il massacre la nature et tout aussi allègrement les autres hommes au nom du bien, du beau et du juste. Il torture pour des causes qu'il croit sacrées. Il défigure, blesse et contamine le monde, puis il applaudit son propre acharnement ravageur. Il vole et pille au nom de la religion, de la morale ou de la loi. Il se perd en se persuadant qu'il avance vers un avenir radieux. J'ai peine à imaginer qu'un dieu, un tant soit peu malin, ait pu créer un être aussi bête et méchant, aussi lâche et cruel, aussi borné et perfide. Je conçois mal que l'évolution darwinienne, qui ne s'encombre ni de morale, ni de finalité, ni de dessein intelligent, ait pu favoriser une espèce aussi envahissante, nuisible, mal embouchée et peu durable. Les mystères du Créateur où les énigmes de l'acide désoxyribonucléique me resteront à jamais impénétrables. Pour la créature humaine, qu'elle soit pétrie par l'éternel ou commandée par ses gènes, le problème est de savoir si son engeance continuera. Je voudrais savoir combien d'entre nous ont gagné au loto en rêve et se sont réveillés la bouche amère en s'apercevant qu'ils avaient simplement oublié de jouer. En tant qu'espèce, nous nous conduisons sur cette planète comme si elle était non seulement généreuse, mais infiniment bonne et riche, comme si elle devait ne jamais s'épuiser, comme un tonneau des Danaïdes à l'envers, qui ne cesserait de se remplir à mesure que nous le vidons, comme un gros lot que nous aurions gagné à perpétuité. Illusion, la Terre n'est qu'un minuscule tourbillon d'énergie, un fantasme de l'espace-temps. Nous avons débarqué par hasard dans ce rêve. Mais pour nous, le cauchemar a déjà commencé.
Non mais on va s'en sortir. Un jour, les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller. Ils vont reprendre leurs droits et ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les bailleurs, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la pagaie de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir des yachts et d'acheter de la coke aux arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse aux sorcières, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. On va arrêter de creuser des trous de plus en plus profonds. On se connaît pour des petits Africains de 7 ans qui, au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone. Et pas tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air évolué. On fera des tonnes de plastique, des œuvres pour ceux qui en ont pas, des œuvres d'art dans tous les coins de rue, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre, c'est aussi un peu grâce à nous qu'on leur fournit de quoi la faire. Ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, si on baisse les bras et qu'on fait rien que gueuler comme des harengs derrière nos putains d'écrans, on laisse tous ces tarés continuer à diriger et à tout massacrer. Alors viens, on se bouge le cul, c'est bon pour les fessiers, la planète et l'humanité. Allez viens, on se bouge le cul, c'est bon pour les fessiers, la planète et l'humanité.
C'était Hélène Piris. Non, mais on va s'en sortir. En attendant, restez au chaud sur Radio B, bien sûr. It might seem-